Bonjour, bonsoir, bon matin et bienvenue à Yoga Partout International. Aujourd'hui, notre invitée, Lise Poirier, est la voix des éléments. Je vais vous la présenter un tout petit peu et après ça, je vais lui laisser le soin de compléter. Donc, Lise Poirier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est formatrice en yoga, naturellement, Vini Yoga. Donc, elle enseigne à des futurs professeurs ce qu'est le yoga. Lorsque j'ai rencontré Lise la première fois qu'elle a accepté de venir au micro de Yoga Partout en 2017, c'était à Paris. Et depuis ce temps-là, elle continue de former des professeurs. Lise, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous raconter, nous dire qu'est-ce qui vous a amené au yoga? S'il vous plaît, Lise Poirier, présentez-vous.
Bonjour Daniel. Ce qui m'a amené au yoga, ça s'est passé d'abord il y a très longtemps, en 1972. J'habitais Vancouver à cette époque-là. Et je venais de donner naissance à mon premier enfant, ma fille. Ça avait été un événement marquant dans ma vie, évidemment, comme toute naissance. Et j'avais le goût, l'envie de faire quelque chose pour mettre mon corps en bonne forme, mais de quelque chose qui était différent des exercices habituels. Même si le yoga est encore dans ses premiers balbutiements au Canada et en Amérique en général à ce moment-là, on parle du début des années 70, je me suis tournée vers le yoga. Ça m'a interpellée déjà beaucoup. Puis j'ai commencé à suivre un cours hebdomadaire là-bas. Peu de temps après, on revenait au Québec, en Gaspésie, et malheureusement, dans mon petit patelin, il n'y avait pas de professeur de yoga. Donc, j'ai continué par moi-même avec l'aide d'un livre. Un livre que je m'étais procuré à Vancouver qui portait le titre anglais de « Yoga en 28 jours ». Alors, c'était un apprentissage progressif du yoga jusqu'à ce qu'au bout de 28 jours, on avait les bases, là. Et ça m'a accompagnée pendant des années, vraiment plus ou moins fidèlement. Et un jour, j'ai entendu parler d'une formation qui se donnait à Québec, au séminaire Saint-Augustin, dans une des résidences du séminaire Saint-Augustin. Et c'était une semaine complète sur yoga et santé. Le thème était yoga et santé. Faut dire que moi, je suis infirmière de formation. Donc, tout ce qui concernait la santé m'interpellait vraiment déjà beaucoup. Et là, je me suis dit, ça m'intéresse et je me demande comment on peut vraiment soigner les gens avec l'aide du yoga. Ce que j'avais pratiqué jusqu'à ce moment-là, c'était un yoga assez sportif, je dirais, sans être très acrobatique. C'est un yoga assez exigeant et je me posais les questions à savoir comment on pouvait rendre ce yoga-là suffisamment aménagé pour que une personne malade, par exemple, puisse le pratiquer. Et donc, je suis allée à cette semaine-là qui s'appelait Yoga et Santé, et là, j'ai fait la connaissance de celui qui allait devenir mon maître, je dirais, depuis de nombreuses années, depuis 1990, en fait, qui s'appelle Paul Maréchal, que tu connais. Et j'ai appris avec lui, là, vraiment, ce qu'était le yoga sous, je dirais, l'appellation Vini Yoga, c'est-à-dire l'adaptation du yoga à la personne. Et cet enseignement-là qui vient de Krishnamacharya, qui est un grand maître indien du sud de l'Inde, qui a vécu à Chennai et mort en 1989. Cet enseignement-là dit bien qu'il est primordial d'ajuster le yoga à l'individu et non le contraire. C'est pas l'individu qui doit s'ajuster au yoga. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. C'était vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment accolée, si on peut dire, à l'enseignement de Claude Maréchal, qui venait assez régulièrement au Québec. J'ai fait la formation de base, de plusieurs ateliers. Je suis allée le rencontrer en Europe. J'ai ensuite pris la formation pour devenir enseignante, et etc. Bon, et ça, c'est... Et donc, l'année 2000, je forme des futurs professeurs.
Et voilà.
Et en parallèle à ça, parce que tu m'as présenté en lien avec les éléments, en parallèle à ça, j'ai suivi une formation de polarité qui utilise la circulation de l'énergie, mais qui est basée essentiellement, pas que ça, mais essentiellement sur le système des cinq éléments hindous, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et ça a été aussi ça une très grande révélation parce que tout en étudiant le yoga, j'avais vu dans les Yoga Sutras de Patanjali qu'on parlait aussi des éléments. Qu'on disait que Patanjali disait par exemple que l'être humain, je résume, est composé de cinq éléments. Entre autres choses. Alors, je me suis mis à faire des liens entre ce que j'apprenais des éléments en polarité et ce que le yoga m'apprenait également. Et à partir de là, j'ai développé, ça fait 25 ans maintenant que je développe cette approche-là, les éléments en lien avec le yoga.
Merci.
Voilà.
Merci. Et j'aurais aussi pu débuter votre présentation, Lise, en vous demandant de décrire un peu l'environnement, donc la géographie, l'endroit où vous êtes situé dans le monde, puisque Yoga Partout diffuse et fait des entrevues un peu partout. Décrivez-moi un peu l'endroit où vous vous trouvez, qu'est-ce qui vous entoure, parce que ça touche beaucoup les éléments. Lise Poirier, la voix des éléments, c'est aussi l'endroit où on demeure, l'endroit où on réside. Parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît.
C'est sûr, oui. D'abord, j'habite en Gaspésie, plus précisément dans un petit village qui s'appelle Cascapédia-Saint-Gilles. C'est dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est pas loin de la mer, bien sûr, mais c'est aussi près d'une rivière, mais c'est aussi près de la forêt. Donc, je pourrais dire que je suis entourée des éléments. Depuis une dizaine d'années, j'habite dans ce lieu extraordinaire qui est ma petite maison en campagne, mais les éléments ont toujours fait partie de ma vie parce qu'à chaque déménagement, il y en a eu plusieurs. Dans ma vie, j'ai toujours recherché des endroits où je pouvais assez facilement aller marcher en forêt, ou sur le bord de la rivière, ou sur le bord de la mer, où j'avais accès, là, sans nécessairement prendre l'auto, là, que j'avais facilement accès à la nature. Et étant née en Gaspésie, c'est mon pays d'origine, c'est mon petit coin de pays d'origine, je suis née sur une petite ferme, donc très tôt dans ma vie, j'étais déjà dans la nature. Je me souviens que j'avais à peu près, très tôt, là, j'avais 7-8 ans, j'allais cueillir des petites fraises dans le champ, pas loin de chez moi, puis c'était vraiment une grande joie. Je pouvais passer des grands moments juste à cueillir des petites fraises. J'amenais ça à ma mère, qui était toute emballée de ma cueillette, qui devait peut-être pas être très abondante, mais qui, moi, me comblait de joie, là, d'être dans la nature, en contact aussi avec les petits animaux. On avait toujours une petite ferme, donc il y avait des animaux autour. Ça m'a toujours habité. Même quand j'ai vécu dans des grandes villes, j'essayais d'être proche d'un parc pour aller marcher. c'est ça. Les éléments ont fait partie de ma vie depuis toujours. Donc, quand ça s'est rencontré à travers le yoga et la polarité, pour moi, c'était comme presque naturel. Tu sais, c'était quelque chose qui... Ah oui, là, c'est ma voix. La voix des éléments est devenue ma voix.
Oui, et voilà. Et voilà. Donc les éléments, je vous ai fait décrire comme ça l'endroit dans le monde où vous êtes localisé parce que, bon, les auditeurs, les auditrices vont comprendre sans qu'on le mentionne explicitement que vous accueillez plusieurs personnes dans votre coin de pays pour des stages, des séjours de longue durée. Et donc, sur Yoga Partout, pour les personnes intéressées qui sont devant un ordinateur, donc il n'est pas question ici là, d'automobile, si vous conduisez l'automobile, vous gardez une voiture. Donc, pour les personnes qui sont devant leur ordinateur, Yoga Partout a quand même fabriquer une page pour vous et nous avons placé une carte géographique qui va vous donner une idée de l'endroit dans le monde où votre centre, le centre Amrita, donc centre de yoga et de polarité, se trouve. C'est de toute beauté, il y a tous les éléments, effectivement. Lise Poirier, donc... Oui. Là, vous êtes formé, vous êtes professeur, vous avez des étudiants qui viennent vous voir d'un peu partout à travers le Québec, le Canada, peut-être même d'ailleurs. Vous avez voyagé, vous avez fait vos classes et votre spécialité, les éléments, donc, la polarité, moi, je ne connais pas cela. Ce que je sais de la polarité, c'est qu'il y a une pôle qui est à l'opposé de l'autre. En yoga, comment ça se transforme, comment ça se traduit? Lise Poirier et la voix des éléments, expliquez-nous un peu le concept de la polarité et du yoga.
OK. Ben, je passerai pas peut-être par le concept de la polarité comme tel, qui est une technique énergétique où est-ce que la personne, le thérapeute, place ses mains sur des points précis sur le corps de la personne, ça se fait sans huile, et c'est en fonction, j'appelle ça moi, du paysage de la personne. Donc, les points qui vont être choisis de toucher, de traiter, vont être en fonction de la personne, à savoir est-ce que cette personne-là a besoin de terre, est-ce qu'elle a besoin d'eau et de feu, etc. Parce que chaque élément a une dimension physique, c'est symbolique tout ça, hein, une dimension physique, psychique et spirituelle. Pour vous donner un exemple, ces notions-là, je les ai apprises en polarité, non pas en yoga. Le yoga, la philosophie de yoga dit simplement que tout être humain est composé de 5 éléments. La médecine traditionnelle indienne, à partir de ça, a aussi développé toute une approche qui s'appelle l'Ayurveda, qui est basée sur les 3 constitutions principales et les sous-constitutions, qui est elle-même basée sur les 5 éléments. Par exemple, la constitution Kapha est faite des éléments eau et terre et eau. La constitution Pitta est faite de l'élément feu et la constitution Vata est faite de l'élément air et éther. Bon, ceci dit, moi, je ne suis pas du tout thérapeute en Ayurveda. Je suis professeur de yoga. Donc, ce que j'ai appris de la polarité, c'est que chaque être humain est composé de ces 5 éléments avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de présence. Par exemple, une personne qui est très terre, par exemple, cette personne-là va présenter un physique sur le plan physique, elle va être assez costaud, sans nécessairement être grasse, mais elle va avoir des épaules, des larges épaules, un cou assez large, est assez carré dans son allure, carré, pas dans le sens péjoratif du terme, c'est vraiment, elle est solide, c'est une personne solide, on va dire, c'est une personne, par exemple, qu'elle a les deux pieds sur terre, bien, c'est une personne qui est solide. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Et donc, chaque élément est développé et de cette manière-là. Sur le plan physique, la Terre, bon, je vous en parle un petit peu. On commence avec la Terre, puis on pourra peut-être parler un petit peu des autres éléments, mais ce serait très long de faire le tour. Mais sur le plan, donc, physique, tout ce qui est solide à l'intérieur du corps humain est relié à la Terre. Tout ce qui est le squelette, par exemple, c'est la partie la plus solide du corps humain et c'est la partie qui est faite essentiellement pas que de minéraux. Donc, c'est la Terre, ça, des minéraux. Sur le plan physique également, on va associer à la Terre tout ce qui retourne à la Terre. Donc, le gros intestin. Le fonctionnement du gros intestin est relié à une bonne présence Terre chez l'être humain. Bon, etc. Sur le plan psychique, la Terre, c'est, puis tout le monde va être d'accord avec ça, c'est facile à comprendre, c'est l'enracinement, l'ancrage. Donc, une personne, comme je viens de le dire, qui a les deux pieds sur Terre, c'est une personne qui est bien enracinée, qui sait, qui connaît sa valeur, qui sait où est-ce qu'elle va, et qui sait comment prendre, quel moyen prendre pour aller où est-ce qu'elle veut aller. C'est une personne, en général, qui a un bon jugement. Parce que elle n'est pas dans les nuages, elle est sur Terre. Il y a des effets négatifs à ça, par exemple. Le côté négatif à ça, c'est un intérêt trop grand pour tout ce qui est matériel. C'est l'insécurité qui vient quand on manque, qu'on a l'impression de manquer de quelque chose. Donc, il y a pour tous les éléments, hein, il y a des aspects positifs et négatifs, à savoir quand cet élément-là est en harmonie, est en équilibre, tout va bien. Mais il peut être en excès ou en manque, et c'est là que le déséquilibre arrive, et là que le thérapeute peut entrer en action. Alors, une personne peut se présenter, par exemple, pour un cours de yoga, mais moi, ce que je vais faire quand je vais rencontrer cette personne-là, ça va être de voir avec elle quels sont ses besoins en termes d'éléments. Donc, à travers un questionnaire, par mon observation, par la relation qu'on établit ensemble, je vais essayer d'avoir la vision la plus juste possible de son paysage intérieur. Et à partir de là, je lui construis une séance de yoga. Alors, vous allez me dire, mais quelle différence qu'il va y avoir entre une séance terre et une séance air, par exemple? Bien, il peut y avoir des différences vraiment intéressantes. Par exemple, les postures, d'abord, c'est une séance. Il ne s'agit pas de parler de posture. On ne travaille pas dans une approche, je dirais, problème, mais dans une approche personne. C'est une approche plus globale. On va présenter toutes les postures qui sont debout sont des postures terre. Donc, on part de la posture Samastiti, déjà en partant, la posture de l'attention ou de la montagne, selon les écoles, on va la nommer autrement, différemment. Bien, c'est une posture terre. Une des très belles postures terre aussi, c'est Tadasana, c'est-à-dire la posture qu'on appelle le panier. Une posture où on monte sur le bout des pieds, on descend et on sent à chaque fois que c'est comme si on plantait nos racines un petit peu plus profondément en terre. Donc, les postures debout, dans leur ensemble, mais il y a des nuances. Les postures qui vont mobiliser les jambes, donc des postures qui vont être couchées sur le dos avec des mobilisations de jambes vers le haut, on va les associer à la posture terre, à l'élément terre. On va aussi associer, par exemple, Apanasana, qui est la posture de l'abdomen. Moi, je l'associe beaucoup parce que dans l'aspect spirituel de la Terre, il y a l'idée, spirituelle, je dirais plus psychique, il y a l'idée de la concentration. Donc, tout ce qui facilite la concentration, le retour à soi, le retour vers soi, la posture de l'abdomen ou Apanasana en fait partie. La pince, Paschimottanasana également. Une posture comme le cobra. Toutes les postures aussi qui vont aller solliciter Les glandes surrénales, parce que les glandes surrénales sont associées à l'élémentaire. Donc, le cobra, sauterelle, demi-sauterelle, même l'arc, sont associées à l'élémentaire, mais aussi avec des nuances. Ensuite, on peut aller chercher aussi tout le domaine du pranayama, qui peut aussi nous donner beaucoup, beaucoup d'outils. Par exemple, des exercices respiratoires où est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle des vilomakramas, c'est-à-dire des coupures, des arrêts durant l'expiration. Donc, je peux inspirer librement, puis en expirant, je coupe mon expiration en deux temps, en trois temps ou même en quatre temps. Et ça favorise aussi l'élémentaire. Bon, et puis je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Tous les bhavanas, des bhavanas qu'on rappelait, par exemple, quand on guide une personne dans une séance de yoga, lui rappeler l'importance de son enracinement, lui faire visualiser ses racines, etc. C'est tout ce sont tous des outils là, qui sont dans la boîte à outils de l'enseignant de yoga.
Je comprends. Merci. Merci. C'est une explication détaillée, complète. Effectivement, si on passait à travers les autres éléments, ce serait un peu long. Par contre, ça soulève une question parce que, de ma connaissance, vous enseignez surtout en individuel. Est-ce que vous faites aussi des consultations à distance?
Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, mais je préfère de beaucoup rencontrer les gens en personne. Ces temps-ci, ça pose problème, évidemment. Mais ça peut arriver qu'on fasse des consultations à distance. Je vais le faire plus pour des personnes qui ont déjà une base ou qui sont avec qui j'ai déjà une relation. Mais dans une première relation, c'est préférable de voir la personne en personne.
Et voilà. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et donc, on va prendre un exemple. Une personne qui vient vous voir, qui a un peu de connaissances au niveau du yoga. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas spécialisé en Ayurveda. C'est tout un champ qui est très, très vaste. Votre spécialité, c'est vraiment l'utilisation des éléments intégrés par la pratique du yoga. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vient vous voir qui peut-être a des difficultés au niveau de la circulation, disons, au niveau des artères, au niveau du système endocrinien. Vous adaptez vos séances individuelles et vous faites pratiquer la personne qui vient vous voir pour qu'elle devienne autonome ou vous la suivez semaine après semaine. Comment vous vous y prenez, Lise Poirier, étant donné que vous demeurez dans une des régions les plus belles que je considère au Québec, peut-être même plus loin que ça encore, en nature, dans le coin de la Gaspésie. Comment vous faites pour joindre l'aspect individualisé de vos cours que vous offrez versus des cours de groupe?
D'abord, pour répondre à une première partie de votre question, Daniel, oui. C'est comment on fait? C'est que quand on rencontre la personne, d'abord, on fait une bonne évaluation, un bon bilan. J'essaie de connaître son paysage intérieur, qui elle est, elle, en termes d'éléments. Et ensuite, à partir de là, je dessine. Le Vinyoga, c'est une approche où on vise aussi l'autonomie de la personne. Donc, un des outils qu'on utilise, c'est que chaque individu, et ça c'est vrai autant en groupe qu'en individu, en individuel, là, part avec une fiche où sa pratique est toute dessinée. Est toute dessinée sur, c'est des bonhommes allumettes qu'on utilise avec la respiration, quand doit-elle inspirer, expirer, tout ça, le nombre de répétitions de chaque étape. On va déterminer déjà à l'avance avec elle, combien de temps pouvez-vous pratiquer par jour, idéalement chaque jour, sinon au moins trois fois par semaine, combien de temps, à quel moment de la journée, allez-vous pratiquer? Si c'est le matin, peut-être que la séance va avoir une allure un tout petit peu plus différente, un petit peu différente de celle qu'elle aurait si la pratique est en soirée, par exemple. Si on fait une pratique pas longtemps avant d'aller dormir, on ne fera pas tout à fait la même pratique, mais on va tenir compte quand même du paysage de la personne. Donc, la personne part avec une fiche. Et moi, je l'invite à moins qu'il y ait des changements majeurs dans sa situation. Si la situation est aiguë, là, ça se peut qu'on ait besoin de se rencontrer plus fréquemment. Mais si la situation existe depuis un certain temps, que c'est relativement chronique, bien, elle peut partir avec sa fiche de pratique et revenir au bout de 3 semaines, par exemple. Puis là, on fait le point, on ajuste, on continue selon l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps, dans son mental, quelle évolution elle a connue. Et on va réajuster, on va redessiner une nouvelle séance en fonction de là où elle est rendue. Donc, on s'adapte toujours à la situation de la personne, oui.
D'accord. Merci beaucoup. Je comprends. Lise Poirier, je rappelle aux personnes qui écoutent cette rencontre sur le web, cette interview sur yogapartout.com, que Lise a sa page. Donc, il y a toutes les informations. On sait comment la rejoindre. Numéro de téléphone, adresse email, on voit même des visuels, des PDF, des formations, des stages qu'elle offre. Donc, vous avez simplement à aller sur le site et dans l'engin de recherche, très rapidement, vous pouvez la trouver en écrivant Lise et vous allez voir Lise Poirier. Le domaine Floravie, vous avez plusieurs cordes à votre arc, Lise Poirier, vous avez été infirmière, pratiquée, travaillé dans le domaine de la santé, comme vous l'avez mentionné au début de notre rencontre, pendant de nombreuses années. Et je m'en voudrais de ne pas vous demander si parfois il n'y a pas des conflits de métier, dans le sens que vous êtes prudente sur l'utilisation de vos mots, vous l'avez mentionné tantôt, vous préparez, vous offrez, vous donnez à vos étudiants une fiche individuelle. Et par contre, il y a des personnes parfois qui vont s'improviser comme yoga thérapeute. Donc, ma question, elle est double. Premièrement, êtes-vous yoga thérapeute? Qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, est-ce que justement la médecine traditionnelle dans le milieu organisationnel gouvernemental, comment ils vous voient? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit quelque part qui pourrait créer de la dichotomie?
D'abord, je ne suis pas un yoga thérapeute dans le sens que j'ai pas un diplôme remis par un formateur qui dit que j'ai suivi tant d'heures en yoga thérapie. Il existe des formations en yoga thérapie en Europe, par exemple. Je sais que entre autres Bernard Boanchot en donne avec un autre professeur réputé. Ça, c'est vraiment une formation en yoga thérapie. Claude Maréchal a donné aussi toute une série d'ateliers sur la yoga thérapie ici. J'en ai suivi quelques-uns, mais j'en ai suivi en fait beaucoup, mais je n'ai pas le papier qui dit que je suis yoga thérapeute. Mais la formation que j'ai acquise avec Claude Maréchal pendant toutes ces années-là me permet quand même, puis la formation que je donne moi-même en yoga permet de faire des rencontres individuelles. Définitivement, on n'a pas besoin d'être yoga thérapeute, se nommer yoga thérapeute pour rencontrer une personne individu à individu et lui proposer une séance de yoga en fonction de ce qu'elle exprime comme besoin. Et ça, je pense que j'ai longuement auprès de Claude Maréchal appris à faire ça. Et c'est ce que j'applique. Mais je peux pas, parce que j'ai pas un papier officiel de yoga thérapeute, me dire yoga thérapeute. Je me refuse à le faire. Ce serait pas honnête vis-à-vis les gens qui le sont officiellement, tout simplement.
Et comment la communauté, les médecins, les spécialistes dans le domaine de la santé qui ont étudié pendant de nombreuses années, qui ont des pratiques médicales, perçoivent le travail que vous faites en général là, pour nous mettre dans le contexte des lois et des réglementations?
Ben, écoutez, le yoga n'est pas réglementé du tout encore. Je veux dire, on ne fait pas partie de l'Office des professions, là, les enseignants de yoga. Puis je pense pas que c'est demain la veille non plus qu'on en fera partie. Donc, il y a à cause de ça, malheureusement, beaucoup d'écart entre certaines formations, hein. Il y a des formations. J'ai récemment, moi, rencontré, récemment, il y a peut-être 2 ans, rencontré une jeune femme qui est allée faire une formation en Inde. Elle est arrivée avec un diplôme d'enseignante, de professeure de yoga, prétendant que ce diplôme prétendait qu'elle avait 200 heures de formation. Elle avait fait cette formation-là sur 2 semaines. Pour faire une formation de 200 heures en 2 semaines, il faut faire un minimum de 12 heures presque par jour pendant 14 jours sans arrêt. Je ne vois pas comment on peut intégrer une science aussi profonde, aussi grande que le yoga de cette manière-là. Donc, la formation que nous, on offre et que j'ai appris de Claude Maréchal, c'est une formation, la base dure 350 à 500 heures. Ça peut être échelonné sur 3 ou 4 ans. Et ça, c'est la base. Il y a ensuite des post-formations, du perfectionnement, des ateliers qui permettent d'aller toujours un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus en profondeur. La science du yoga, c'est une science très, très grande. Je pense qu'on ne peut pas se prétendre de la connaître à fond en peu de temps. Et même moi-même, là, depuis, je connais le yoga depuis 1972. Hein, je connais, j'ai mis mon premier orteil dans le yoga en 72, puis j'en apprends encore énormément là. Donc, c'est quelque chose qui est vaste.
Voilà. Et voilà, et voilà. Merci beaucoup de cette précision. Lise Poirier, le temps passe si rapidement. Je m'en voudrais de ne pas vous demander des questions à propos de votre travail au niveau des leçons individuelles, là. Vous êtes en train de préparer quelque chose là pour des enseignants de yoga à la lumière des éléments toujours. Lise Poirier, professeure, formatrice de yoga, spécialisée dans les éléments, pouvez-vous nous parler des leçons individuelles que vous êtes sur lesquelles vous travaillez à la lumière des éléments, s'il vous plaît?
En fait, vous m'ouvrez une porte là, pour parler d'un perfectionnement qui va s'adresser aux enseignants. C'est pour aider les enseignants à faire eux-mêmes des leçons individuelles auprès de leurs propres élèves, leurs propres clients, mais avec cette lunette-là que moi j'utilise qui s'appelle la voie des éléments. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend de base dans la formation du yoga. On n'apprend pas comment, je dirais, comprendre une personne avec cette lunette-là. On apprend on apprend les yoga sutras de Patanjali, on apprend les postures, les postures les plus importantes, leur indication, leur contre-indication. On va apprendre comment les préparer, comment les compenser, etc., etc. Mais on n'apprend pas comment connaître une personne à travers les éléments. C'est ce que je veux développer. Donc, il y aurait un perfectionnement. Pour l'instant, la structure est encore à déterminer, à savoir si ça va s'échelonner sur combien d'heures, sur un an, combien de week-ends. Et là, je vais rencontrer les enseignants intéressés et d'abord leur enseigner c'est quoi les éléments, comment comprendre les éléments, leur enseigner comment découvrir ça chez l'autre. Donc, c'est pour ça que j'attends que la pandémie soit terminée parce que il va y avoir nécessité de faire des rencontres individuelles là, parce que pour faire pratiquer la personne, pour la comprendre, pour et à la suite de ça, les gens vont avoir donc à apprendre quelles sont les postures ou les séances qui peuvent aider une personne, par exemple, qui a besoin plus de d'eau, qui a besoin de harmoniser l'air dans son paysage, etc. Et ensuite, elle va apprendre à dessiner. Ben ça, les gens qui ont une formation, en du moins en Vinyoga, savent déjà comment dessiner une séance de yoga puis donner ça à leurs élèves, à leurs étudiants. Et donc, je vais les préparer à ça. C'est l'idée, c'est qu'ils soient en mesure, au bout d'un certain nombre d'heures, je ne sais pas exactement combien encore, mais de rencontrer une personne, d'être capable de voir son paysage intérieur, à elle précisément, et de lui préparer une séance et éventuellement plusieurs séances à la suite de quelques rencontres pour harmoniser son paysage, pour retrouver son équilibre. Parce que quand les gens viennent nous voir en individuel, c'est parce qu'il y a un problème. Soit il y a un problème d'insomnie, soit un problème de douleur dans le dos, soit il y a un problème. Ils viennent nous voir pour les aider à régulariser ce problème-là. Donc, c'est le gros projet à venir.
Est-ce que cela va... Je m'excuse de vous interrompre.
Oui, entre-temps, ben, j'organise des ateliers, j'appelle ça des retraites. Vous avez parlé du domaine Floravie. Le domaine Floravie, c'est un lieu que je loue pour aller donner ces retraites-là. Ça ne m'appartient pas, évidemment. C'est un lieu, justement, absolument magnifique, en pleine nature, sur le bord du fleuve, qui n'est pas en Gaspésie, malheureusement, là, qui est plutôt dans le Bas-Saint-Laurent, et qui se prête très bien à ce genre de retraite-là. Là, les gens apprennent. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas uniquement aux enseignants. Mais les gens apprennent qu'est-ce que c'est que les éléments. Comment comprendre les éléments en eux-mêmes? C'est surtout le but de la retraite. Est-ce que moi, par exemple, où est-ce qu'est mon déséquilibre? Si je souffre de tels problèmes depuis tant de temps, c'est un déséquilibre au niveau de l'eau? C'est un déséquilibre au niveau de l'air ou quoi que ce soit? Alors, c'est ça que les gens essaient de voir à travers toutes sortes d'exercices en contact avec les éléments, mais aussi de réflexion, de méditation, de pratique d'asana, etc. On a plein d'outils là, pour aider les personnes à cheminer à l'intérieur de leur propre paysage, finalement.
Et voilà. On dit de votre région que c'est comparable à Compostelle, un genre de Compostelle québécois. C'est de toute beauté. J'invite les personnes à communiquer avec vous, naturellement. Lise Poirier, vous l'avez mentionné, la formation sur les éléments pour aider les enseignants à préparer des cours individuels pour leurs étudiants. C'est une formation qui est spécialisée, là, qui s'adresse à des professeurs de yoga. Est-ce qu'il y a avec cette formation du matériel théorique? Parlez-nous, Lise Poirier, de votre manuel, de votre ouvrage, de votre livre qui accompagne cette formation sur laquelle que vous offrez.
Oui, bien, merci. Merci, Daniel. Effectivement, c'est la base, ce document-là qui s'appelle « La voie des éléments, harmoniser, équilibrer les éléments en soi par la pratique du yoga », qui est le sous-titre. C'est un document qui, éventuellement, sera peut-être un jour publié, imprimé, pour en faire un livre, là, mais c'est mon document de base. À partir de là, je suis toujours en train de le peaufiner, là, mais c'est ma réflexion de base et c'est à partir de ce document-là que je vais donner la formation, en fait. Exactement. C'est j'appelle ça un perfectionnement plus qu'une formation, mais on pourrait dire que c'est une formation parce que c'est quelque chose d'assez nouveau puis d'assez unique là pour s'orienter vers une rencontre individuelle, je dirais, différente, qui permet d'avoir, qui permet aussi de pouvoir dire à chaque personne, tous les paysages au monde sont uniques. Hein, tous les paysages de la nature sont uniques, là. Que ce soit la Gaspésie, que vous trouvez belle et que je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, ou que ce soit n'importe quel autre paysage du monde, un désert, le Grand Nord, tout ça, c'est unique, mais c'est différent en même temps. Et en soi, il n'y a pas de paysage qui soit laid. Il n'y a que des paysages différents, uniques, qui vont présenter, par exemple, si on parle du Grand Nord, beaucoup plus d'eau que de terre, évidemment, hein, et beaucoup d'air également et d'espace, alors que dans le désert, on va avoir des paysages où la terre est beaucoup plus présente, pratiquement très peu d'eau et beaucoup de feu, par exemple, aussi, parce que le soleil plombe souvent et assèche tout. Alors, vous voyez que chaque paysage, là, puis je vous parle de la nature, de notre environnement, de notre planète, mais on est une petite planète en soi. Et chacun d'entre nous avons des glaciers à l'intérieur de nous, des déserts à l'intérieur de nous, etc. C'est l'idée de reconnaître ça. De reconnaître ça et être capable d'aider la personne pour que, ben, si elle est un désert principalement, mais comment on va aller irriguer ce désert-là? Et des pratiques, par exemple, où la présence de l'eau va être plus présente, excusez-moi, la répétition de mes mots, mais est-ce que l'eau va être plus présente à travers certaines postures d'ouverture? C'est tout ça que le perfectionnement que je veux offrir aux enseignants là, que je suis en train de développer pour probablement l'année 2021. En souhaitant que la pandémie va nous donner la possibilité de le faire.
Oui, que tout aille bien. Vous avez, Lise Poirier, le goût de mettre l'eau à la bouche aux auditeurs, aux auditrices. On peut visualiser, on peut voir les mots que vous prononcez. Et moi, je vais rajouter quelque chose parce que je vous trouve trop humble, Lise Poirier, parce que cet ouvrage, La Voix des éléments, le document de base dont vous avez fait mention, oui, c'est un ouvrage sur lequel vous travaillez, c'est l'œuvre d'une vie, vous êtes une passionnée, c'est votre vocation pratiquement, là. Et le fait que vous ayez une formation universitaire, une formation dans le domaine de la santé à titre d'infirmière, fait que cet ouvrage est vraiment solide au niveau des bases scientifiques que vous apportez, les exemples que vous apportez. Moi, j'ai vu cet ouvrage-là et c'est à ce moment-là que j'ai communiqué avec vous. Donc, la première fois qu'on s'est parlé, qu'on a pris le temps de se rencontrer, je vous ai invité justement à publier cet ouvrage. J'encourage les gens à communiquer avec vous, à réserver peut-être même la copie, la première copie lorsqu'elle sera disponible, parce que vous voulez rendre cet ouvrage-là, le vulgariser, le rendre accessible à tous et à toutes, là. Oui. Pas seulement à une clientèle spécialisée de professeurs de yoga. Est-ce exact?
Oui, oui. C'est le travail que je suis en train de faire maintenant. Quand je l'ai fait, effectivement, je l'ai fait un petit peu dans... l'optique, c'était ramasser ma pensée et puis le faire un peu sous la forme d'un mémoire présenté à mon professeur qui était Claude Maréchal à ce moment-là pour avoir le diplôme de formatrice officiellement. Puis bien sûr c'est un peu académique là comme travail et là je suis en train de le faire de le revoir pour le rendre justement plus accessible à un plus large public.
Et voilà.
C'est un travail de longue haleine.
Et voilà. Et je m'en voudrais aussi de ne pas vous demander de nous parler un peu de votre collaboration au magazine que Yoga Partout a lancé, qui se nomme satoshi.yoga, donc http://satoshi.yoga, qui mène en ce moment sur la plateforme de Yoga Partout. Vous êtes collaboratrice, vous avez accepté d'écrire justement sur ce sujet qui vous passionne. Parlez-nous un peu là des thématiques, des exemples d'articles que vous publiez et comment ça va là, à ce niveau-là.
Bien, ça rejoint exactement ce qu'on vient d'échanger ensemble, là, c'est-à-dire que je présente le premier article à la suite de ma présentation personnelle va traiter des éléments dans la nature et comment ces éléments-là dans la nature peuvent servir de miroir à nous comme personnes. Comment, par exemple, un paysage, je viens de vous parler du désert, par exemple, est-ce que je ressemble à un désert ou est-ce que je ressemble, qu'est-ce qui va me différencier moi? Quel est mon paysage intérieur? Donc, c'est un petit peu, le premier article, ça va être un petit peu ça, je l'ai appelé la nature miroir. Mon miroir, en fait, le miroir de l'être humain. Et ensuite, je repars un peu comme on vient de le faire, là, avec chacun des éléments. Il va y avoir au moins deux articles par élément où je vais présenter la dimension physique de l'élément, cette dimension psychique et cette dimension spirituelle. Sa relation, l'élément et la santé, par exemple la terre et la santé, je suis en train de travailler cet aspect-là actuellement. Et ensuite, comment le yoga peut aider? Quelles sont, par exemple, les postures de yoga ou les séances de yoga? Je ne sais pas encore trop comment on va présenter ça, là, mais pour que ce soit accessible, mais c'est sûr que un livre ne pourra jamais remplacer un enseignant de yoga. Faut savoir ça au départ. Donc, une personne peut comprendre un petit peu son paysage, aller pratiquer peut-être un petit peu des postures, mais ça va demander l'aide d'un enseignant pour aller un peu plus loin quand même. Ça, c'est vrai pour ouais. Toutes les publications. Tu sais, on s'entend là, que... apprendre juste avec un livre, c'est réducteur. On peut manquer beaucoup de choses. On a personne qui nous observe. Souvent, on a besoin de quelqu'un qui voit d'un œil extérieur qui on est, qui nous guide un petit peu plus. Voilà. Donc, mais quand même, les articles vont porter comme ça sur chacun des éléments, là, jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour. Et éventuellement aller vers l'intégration de tout ça et au-delà, moi, ce que j'appelle le soi, c'est-à-dire la dimension vraiment plus profonde, plus de l'être humain, son être intérieur profond, qu'on peut appeler la conscience, sa conscience personnelle. Donc ça, ce serait beaucoup plus tard là, dans... Beaucoup, beaucoup plus tard. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en arriver là, mais on chemine.
Mais en fait, c'est beaucoup votre travail à temps plein maintenant, là, l'écriture, la transmission. C'est important pour vous de transmettre les poiriers de Amrita Yoga?
Oui, c'est important. C'est, en fait, si on regarde le Yoga Sutra de Patanjali, le premier sutra, je le dis dans les termes que Claude Maréchal a traduit, yoga, transmission, tradition, transmission. Yoga Chitta Vritta, voyons, je m'excuse, là, j'ai un petit blanc. Le premier sutra dit que le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une tradition qui doit se transmettre. Et quand on a reçu beaucoup, comme moi je l'ai reçu beaucoup de yoga, on a le devoir de le transmettre et de l'enseigner. Et c'est mon message là, à mes élèves, à mes propres élèves. C'est ça. On a cette mission-là, je crois.
Et voilà, et voilà. Et je rappelle aux personnes qui nous écoutent, il y a différentes plateformes là où on peut... vous rejoindre, vous entendre, j'en nomme plusieurs ici, donc il y a Spotify, il y a Apple Podcast, il y a Anchor, Google Podcast, Pocket, Radio Public, on est bien servi, on peut vous rejoindre et vous entendre sur ce canal. Avant de débuter notre émission, nous avons discuté de parler de pranayama. Le yoga incite et forcément touche l'aspect respiration. Et au lieu d'en parler de façon théorique, vous avez accepté, et je vous remercie beaucoup parce que c'est inhabituel. Il n'y a pas de musique dans notre cas. Vous avez accepté de nous guider, un genre de court exercice de conscience de respiration. Ce sera un peu le mot de la fin en même temps. Je vous invite à prononcer un souhait, un sankalpa, dans cette période très difficile que l'humanité traverse en ce moment. Il y a beaucoup de souffrance, votre souhait pour le futur. Et donc, comme j'ai mentionné, Lise Poirier, le dernier mot est à vous. Je vous laisse comme ça nous guider par ce court exercice de respiration. Et je rappelle aux personnes, parce que c'est ça, là, j'ai mentionné qu'il y a beaucoup de canaux qui sont disponibles pour vous entendre. Et donc, s'il y a des personnes qui sont en train de conduire l'automobile, ne fermez pas les yeux si on vous demande de les fermer. C'est à pratiquer à la maison, assis. Donc, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux personnes qui sont sur Internet, qui peuvent vous trouver soit sur Yoga Partout ou simplement sur Facebook aussi. Il y a toutes les informations sur votre page. Vous êtes facile à trouver. Lise Poirier et la Voix des éléments. Merci. Et le mot est à vous avec ce court exercice.
Merci, Daniel. Alors, on le disait en cours de route, la respiration joue un rôle majeur dans la pratique du yoga et dans la vie. Et dans ce passage difficile qu'on vit tous, toute la planète en fait, je pense que si on s'assoyait juste quelques instants pour respirer consciemment, déjà ça nous ferait un grand bien. Donc, c'est aussi faire du yoga que de simplement s'asseoir et respirer. Alors, je vais vous guider dans un exercice respiratoire tout simple. Pranayama, c'est d'abord être conscient de sa respiration. C'est pas nécessairement faire des exercices très complexes en freinant nos narines ou pas. C'est surtout et en premier lieu être conscient de son souffle. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir soit sur le sol ou sur une chaise, peu importe. L'important, c'est que votre dos soit droit, sans douleur, sans inconfort. Donc, vous trouvez l'accessoire qui vous permet de un banc de méditation, un coussin ou quoi que ce soit qui vous permet d'avoir cette assise-là confortable, tout en étant bien droite. Et en même temps, de relâcher tout ce qui n'est pas impliqué dans cette assise-là. Alors, vous allez fermer les yeux et tout d'abord prendre conscience du contact de votre corps au sol ou sur la chaise. Si vous êtes assis sur une chaise, par exemple, prenez conscience de l'appui de vos deux pieds sur le sol. Évitez de croiser les jambes si vous êtes assis sur une chaise. Prenez conscience de votre siège sur le sol, de votre dos, de l'érection de votre dos. Assurez-vous que la nuque soit étirée. Évitez de pointer le menton vers le plafond. Rentrez un petit peu le menton vers la poitrine pour sceller l'énergie à l'intérieur de vous. Évitez de contracter les muscles du cou, par contre. Restez à l'aise. Et vous allez relâcher votre visage, en particulier le front, les yeux et mâchoire. Vous allez également relâcher vos épaules, vos bras, vos mains. Vous placez vos mains bien confortablement, l'une dans l'autre, ou encore sur vos genoux, sur vos cuisses. L'idée, c'est que tout le haut de votre corps soit relâché, détendu. Puis, vous allez amener votre conscience maintenant dans votre respiration et simplement l'écouter pour quelques instants. Écoutez l'inspiration qui pénètre en vous, qui descend vers le ventre. Et l'expiration qui repart du bas de votre abdomen et qui sort vers l'extérieur. Et vous allez, comme ça, faire quelques respirations simplement suivre le mouvement de l'air qui pénètre vers l'intérieur et de l'air qui ressort vers l'extérieur. Si vous connaissez la technique de l'Ujjayi, c'est-à-dire la contraction des cordes vocales qui fait comme un petit son, un peu comme un petit ronflement, doux. Il faut que ce soit doux. Si vous le connaissez, vous l'installez. Et sinon, faites simplement suivre votre souffle. L'air qui entre et l'air qui sort. L'air qui entre et l'air qui sort. Ralentissez lentement. Ralentissez votre souffle, mais sans jamais vous essouffler. Il faut toujours que votre respiration reste paisible, calme. Des petites rétentions poumons pleins et vides, mais très confortables si elles s'installent de façon naturelle. Je laisse l'air pénétrer à l'inspiration et ressortir à l'expiration. J'inspire et j'expire. Je vous invite à continuer pendant les prochaines secondes à suivre le mouvement de votre souffle. Et si par hasard votre mental part en voyage, gentiment et fermement, vous le ramenez dans ce mouvement de l'air qui entre et qui sort de votre corps. Respiration-là, vous pouvez simplement être sensible au passage de l'air sur vos narines quand vous inspirez et quand vous expirez. De façon plus concrète dans ce travail respiratoire, vous pouvez ajouter un comptage. Par exemple, vous pouvez compter 5 secondes d'inspiration ou 6 ou 8, dépendant de la longueur de votre souffle, et tenter peut-être d'avoir 1 ou 2 secondes de plus à l'expiration. L'expiration qui nettoie, qui purifie. invite à continuer pendant quelques instants encore cette respiration consciente qui est un prélude en fait à la méditation. La méditation étant d'abord en tout premier lieu un exercice de concentration, c'est ce qu'on fait quand on respire de façon consciente. Et éventuellement, on arrivera à l'état de méditation qui est un état de grâce. Mais pour l'instant, on se concentre sur notre souffle. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.